Bonjour et bienvenue pour un nouveau rendez-vous psycho, HPI, haut potentiel intellectuel, surdoué ou zèbre, c'est le sujet d'aujourd'hui. Mais pour appeler un chat ou plutôt un zèbre, encore faut-il savoir le reconnaître et faire fi des clichés. Pour en parler aujourd'hui, faire le tri des idées reçues et mettre en lumière avec justesse le haut potentiel intellectuel, j'ai le plaisir de poser mes questions à Audrey Platania, psychologue du développement, directrice clinique et pédagogique des centres Cogitos. Bonjour Audrey Platania.
Bonjour Émilie. Merci beaucoup pour cette invitation.
Merci à vous d'avoir répondu présente à mon invitation pour parler de ce sujet. Je vous propose de démarrer tout de suite pour commencer et comprendre de quoi il retourne. Quelle définition pouvons-nous donner? Autrement dit, c'est quoi une personne HPI?
Alors ça, c'est une question très pertinente qui demande aujourd'hui pas mal d'expertise et de lecture parce que en effet, comme vous l'avez dit en intro, il y a beaucoup de confusion autour des terminologies et rien qu'au niveau des termes, hein, on parle de HP, maintenant de HPI, on parlait de surdoué, de précoce. Ce terme de zèbre aussi qui a été introduit par Gensio Fachin. Et donc d'abord, ce qui est important de dire, c'est que tous ces termes sont synonymes. Hein. Tous ces termes renvoient vraiment au même profil, aux mêmes caractéristiques. Je rajouterais que par contre, le HPE, lui, n'a pas de validité scientifique et n'est pas du tout synonyme au reste de tous ces termes-là que j'ai évoqués, d'accord?
Donc, HPE, c'est émotionnel, c'est ça? C'est au potentiel voilà. Émotionnel. Et celui-ci n'est pas reconnu, donc.
Voilà, hein, ça c'est d'accord. Vraiment important parce qu'aujourd'hui, on a énormément de personnes qui confondent parce qu'il y a eu beaucoup de dérives et que ce terme est apparu. Aujourd'hui, en consultation, on a beaucoup de personnes qui viennent en disant « je veux savoir si je suis HPI ou HPE ». Et en fait, ça, sur le plan scientifique, ça ne veut rien dire. D'accord, on n'a aucune validité sur le plan du HPE. Donc, je parlerai ici vraiment que du HPI, HP, surdoué, précoce, comme vous voulez, mais pas du HPE.
Et là, pour le coup, il y a quand même des signes avant-coureurs, j'imagine, quand on est au potentiel intellectuel. Mais justement, c'est ce que vous allez nous raconter. Quels sont ces signes? J'imagine que quand même, ça doit se noter. Quels sont les signes du haut potentiel intellectuel?
Ben, d'abord, en effet, dans cette terminologie, il y a déjà l'aspect intellectuel. Ça part de là, en fait. Ça part vraiment de spécificité sur le plan de la puissance intellectuelle. Donc, déjà, un HPI, il a un QI supérieur ou égal à 130. Ça, c'est une donnée qui est reconnue sur le plan scientifique et c'est une donnée de base qui est incontournable. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la moyenne du QI, elle est à 100. D'accord, et que entre 90 et 120, on a environ 76% de la population. Au plus on s'écarte de cette norme, au plus du coup on rencontre des personnes qui ont des caractéristiques spécifiques sur le plan intellectuel et à plus deux écarts types, donc quand le QI est aux alentours de 130, ben on est sur 2,3% de la population et c'est de cette population-là que l'on parle, quand on parle de HPI ou de surdoué ou de précoce, d'accord? Donc ça, c'est une donnée scientifique validée et reconnue. Maintenant, quand on parle d'intelligence, finalement, on parle aussi de mode de pensée. L'intelligence, c'est les substrats cognitifs, les structures hein, qui nous permettent d'avoir des modalités de pensée. Et de fait, quand on a ces différences intellectuelles, la chose principale à comprendre, c'est que le HPI va avoir une vitesse de traitement de l'information qui est deux fois supérieure à la moyenne. D'accord?
D'accord. Il réfléchit très vite.
Exactement. Et ça, c'est une donnée aujourd'hui que l'on a validée avec, grâce aux IRM, grâce aux imageries hein, cérébrales. On voit vraiment le cerveau fonctionner et on voit qu'il y a eu une hyperconnectivité en fait cérébrale qui fait que l'électricité va plus vite et se déploie dans les structures, dans les hémisphères, dans les lobes sur le plan cérébral de manière particulière, plus riche, plus rapide. Et c'est vraiment cette donnée-là qui va entraîner après certaines spécificités sur le plan du raisonnement, sur le plan de la pensée, mais aussi sur le plan de notre manière d'être au monde, de traiter les informations et de traiter toutes les informations, du coup.
D'accord. Et alors, si j'ai bien compris, c'est un mécanisme différent de pensée. C'est-à-dire que nous, peut-être qu'on va réfléchir à 1 plus 1 égale 2, mais peut-être qu'un HPI, il aura un autre raisonnement qui l'amènera au bon résultat. Mais c'est ça, il y a plusieurs modes de pensée, plusieurs types de raisonnement qui nous sembleraient, enfin nous, en tant que personne non HPI, qui nous semblent différents, en fait, c'est ça.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, ça part déjà d'une capacité à capter plus d'informations. D'accord? Il y a cette capacité, cette hyperesthésie qui fait que la personne HP va capter, va très peu inhiber d'informations dans son environnement. Donc, il va capter beaucoup plus d'informations. Et après, sur le plan électrique, il va traiter, c'est-à-dire faire des liens entre ces informations de manière plus riche et plus rapide. Donc, en effet, ça aboutit à un mode de pensée qui se déploie. Alors, Jeanne-Sio Fachin a employé le terme d'arborescence pour illustrer ce propos. Hein. Ça ne se passe pas comme ça. On ne voit pas d'un coup un arbre s'allumer dans la tête. Hein.
L'arborescence, pardon, c'est quand on pense à quelque chose et puis c'est entre une autre pensée, une autre pensée, une autre pensée.
Voilà. Mais c'est vraiment une image qu'elle a donnée pour illustrer ces modalités de pensée plus rapides, plus d'informations, plus riches. Voilà, donc c'est vraiment ça la spécificité, si on devait en donner qu'une. En tout cas, c'est elle qui est au nœud, c'est elle qui est vraiment au centre de ce fonctionnement-là.
D'accord. Alors, vous le disiez, c'est seulement un peu plus de 2% de la population qui est HPI. Quand et comment détecter sérieusement un HPI ?
Il y a beaucoup de choses qui circulent sur le HPI et quand on va sur Internet, quand on lit des choses, on trouve des espèces de listes comme ça, de signes qui doivent alerter la personne et qui dit « Oh là là, je reconnais mon enfant, je me reconnais dans le HPI, etc. »
Et d'ailleurs, est-ce important de le savoir et qu'est-ce que je fais de l'information en fait ?
C'est ça aussi. Oui, alors… Il y a plusieurs questions là. Je vais traiter la première. Ces signes, en fait, il faut vraiment penser que c'est toujours le haut de l'iceberg. Vous savez, l'iceberg, il y a la partie visible et il y a la partie invisible. Donc, quand on va observer des signes, comme un enfant qui pense beaucoup, je suis assaillie de pensées, ou cette fameuse hypersensibilité dont j'imagine qu'on va parler, ou un enfant qui s'ennuie à l'école, ou un enfant qui est sensible à l'injustice. Enfin, on trouve beaucoup de choses comme ça. Ce qui est très important de dire, c'est que ce ne sont que des observations, ce sont que des signes en fait qui doivent alerter. Je dis pas qu'il faut pas en tenir compte, au contraire, hein, c'est des signaux, il faut vraiment en tenir compte, ça veut dire en tout cas qu'il se passe quelque chose et qu'il est vraiment important de faire un bilan psychologique parce que ce n'est qu'à partir donc de ce bilan psychologique, neuropsychologique, qu'on pourra vraiment déterminer si ça appartient à ce tableau-là ou si c'est autre chose. Parce que un enfant qui est débordé par ses émotions, ça peut être autre chose. Un enfant qui s'ennuie à l'école, ça peut être autre chose. Un enfant qui est en échec scolaire, ça peut être autre chose.
D'accord. En tous les cas, il faut effectivement consulter si on détecte ce genre de problématique, mais ça n'est pas forcément rattaché à un haut potentiel intellectuel.
Voilà, il y a beaucoup en fait aujourd'hui de raccourcis et de biais de généralisation où à partir d'un signe, on va surinterpréter ce tableau-là, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas ignorer les signes. D'accord ? Voilà.
Et justement, à quoi faut-il être vigilant quand on parle des enfants, parce qu'un adulte bon, qui aujourd'hui peut effectivement avoir un peu du recul et se dire, tiens, effectivement, j'ai toujours ressenti peut-être un décalage. L'adulte, lui, va aller faire la démarche. Mais pour l'enfant, à quoi faut-il être vigilant? Alors, on parlait de l'école, mais est-ce qu'il y a d'autres signes qui peuvent intervenir?
Oui, vous parlez du sentiment de différence et de décalage, je pense que c'est vraiment important, les relations aux autres, le fait de se sentir à sa place, de se sentir tranquille. Bon, bien sûr, il y a le plan des apprentissages, mais il y a le plan plus global au niveau de la confiance en soi, au niveau de se sentir bien à sa place. Hein. C'est vrai que ce sentiment de différence et de décalage peut entraîner de vraies difficultés parce que là aussi, beaucoup vont l'interpréter de manière négative. Je suis différent parce que je suis moins bien que les autres. Quand les autres disent ça, je réagis pas de la même manière, je ressens pas les mêmes choses. En fait, la principale difficulté, ça va être d'interpréter la différence en termes négatifs, en fait, ce qui va abîmer la confiance en soi et entraîner tout un système de croyances qui va entraîner la difficulté psychologique. Vous voyez, c'est pas parce qu'on est HPI qu'on est en difficulté psychologique. C'est parce qu'on est HPI et qu'on va interpréter cette différence de manière délétère que ça va entraîner des difficultés psychologiques. Vous voyez, faut pas faire le raccourci.
Oui, c'est bien plus complexe que ça. Vous l'évoquiez tout à l'heure, HPI, ça peut aussi être détecté parce qu'on voit bien que dans l'apprentissage, c'est peut-être différent des autres enfants. Là aussi, il y a quelques idées reçues. Tous les élèves HPI sont-ils en échec scolaire? On imagine au contraire qu'il y a un QI plus élevé. Comment ça se passe en vrai sur les bancs de l'école?
En vrai. Alors, en vrai, en fait, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mythes. Alors, en fait, d'abord, le mythe, c'était plutôt l'enfant HP, c'est le premier de la classe. Et maintenant, on assiste à un mythe complètement inverse qui dit l'enfant HP est un enfant en échec scolaire. Et en fait, là aussi, on fait des raccourcis. C'est-à-dire que, en effet, un haut QI, enfin, c'est pas, ça, haut QI égale réussite scolaire, ça marche pas, d'accord? Mais d'avoir un potentiel intellectuel, ça donne des atouts sur le plan des apprentissages. D'ailleurs, les enfants, les personnes au potentiel ont une mémoire de travail et une mémoire à long terme qui est beaucoup plus conséquente. Ça aussi, c'est une donnée scientifique. Donc, forcément, ça emmène des atouts. Mais il y a plusieurs choses. D'abord, il peut y avoir des troubles d'apprentissage associés. Beaucoup, on sait aujourd'hui que beaucoup d'HP ont aussi un trouble des apprentissages. Donc, du coup, ça amène des freins sur le plan de l'apprentissage. Mais aussi, de manière intrinsèque à leur fonctionnement, ce qui se passe, c'est que ces enfants-là ont du mal à conscientiser ce qu'on appelle les stratégies métacognitives. Alors, les stratégies métacognitives, en fait, c'est la possibilité à pouvoir anticiper, planifier, réguler, corriger vos modalités de pensée pour pouvoir appliquer des stratégies, en fait, organiser des stratégies et pouvoir être efficace dans votre apprentissage. Donc, en fait, à l'école, il n'y a pas que l'intelligence, il n'y a pas que les instruments sur le plan des apprentissages. Il y a aussi votre capacité à les piloter, en fait. Votre capacité à pouvoir avoir une bonne visibilité sur votre manière de faire pour pouvoir engager les bonnes stratégies au bon moment, être flexible, revenir en arrière, etc. Et en fait, on voit que les enfants qui sont en difficulté sur le plan scolaire, qui n'ont pas de troubles, d'accord, qui n'ont pas de troubles associés, leur principale difficulté, ça va être cette métacognition, en fait. Cette métacognition qui est une différence quand même inter-individuelle chez tous les élèves et qui a un marqueur assez important d'inégalité sur le plan de la réussite scolaire. Et en fait, cette vitesse de traitement de l'information, si on en revient à elle, parce que c'est vraiment la base, cette vitesse de traitement de l'information fait que votre pensée vous échappe un peu. D'accord? Vous traitez les informations tellement vite et sur tellement de plans différents que, comme vous dites, vous avez des formes d'insight, c'est-à-dire que vous avez la réponse, vous sentez que c'est ça, mais vous le sentez. Vous savez pas comment vous avez fait et pourtant, vous savez que c'est juste. Et c'est ça qui va être compliqué.
Difficile à maîtriser, surtout quand on est enfant, expliquer comment on est arrivé au résultat, mais quand on n'est pas capable.
Voilà. Et c'est là où on a. Mais après, la métacognition, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc, ça va dépendre aussi beaucoup du milieu familial dans lequel vous avez baigné avant d'arriver
à l'école. C'est ce que j'allais vous dire. Il y a aussi l'environnement qui compte beaucoup et effectivement l'environnement familial. Et aussi à l'école, j'imagine, quand notamment on a des classes de 30 élèves, par exemple, s'occuper d'un élève en particulier pour lui expliquer… Tu as fait juste, mais le raisonnement, il est peut-être pas le même que moi j'enseigne, ça doit être compliqué.
C'est ça. C'est toute cette possibilité qu'on donne à un enfant d'avoir une visibilité sur ses modalités de pensée. Que ce soit en famille ou que ce soit des rencontres avec des professeurs, si ces enfants-là ont cette opportunité qu'on puisse les aider à éclairer leur manière de penser et le cheminement de leur pensée, ben c'est là en fait où va se trouver les plus grandes différences interindividuelles sur un enfant qui arrive plus ou moins bien à s'adapter aux attentes scolaires.
Parce que justement, j'imagine que si on pousse un enfant HPI à rentrer dans le moule du système éducatif, en tout cas dans un raisonnement, c'est contre-productif, non ? Par exemple, j'imagine qu'il aura du mal à s'adapter à ce type d'enseignement.
Parce qu'en fait, il y a deux étapes. Il faut d'abord lui permettre d'avoir une bonne visibilité sur comment il fait pour qu'on puisse, ensuite, il puisse, lui, apprendre d'autres modalités. Parce que la métacognition et tous ces principes de traitement plus séquentiel, plus en étape de l'information, c'est hyper important de pouvoir en disposer à certains moments de sa vie.
Bien sûr.
La résolution de problèmes, voilà. Mais on peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Voilà. Il a d'abord besoin d'être entendu, d'être compris, de comprendre pourquoi lui il fonctionne comme ça, etc. Pour ensuite pouvoir entendre que il y a d'autres manières de faire et que dans les règles scolaires, dans le code scolaire, il est plus bénéfique de. Mais ça veut pas dire que son fonctionnement est nul. Voilà.
Mais c'est important de le préciser justement, comme il ressent déjà ce décalage, de le rassurer finalement et puis l'expliquer que oui, il est bien, mais lui expliquer d'où ça vient, pourquoi il est comme ça, et après donc de le ramener dans les conventions, on va dire ça, plus traditionnelles.
C'est ça. Mais c'est finalement vrai pour toute différence pour tout enfant qui fonctionne différemment. Pour des enfants qui ont par exemple des troubles des apprentissages, ça va être la même chose. Il a besoin de comprendre pourquoi lui il fonctionne différemment pour engager après des stratégies qui soient plus adaptées au système scolaire.
Et puis après, on imagine que quand l'élève a compris, etc., que le suivi de la scolarité peut être au contraire assez exceptionnel, non ? Avec un QI, j'imagine, au-delà de 130, quand on comprend comment ça fonctionne, tout de suite, on doit avoir quand même des bons élèves, non ? Se détacher assez rapidement.
Oui, tout à fait. Ouais. Après, il y a tous les enjeux psychologiques aussi. Il y a ces spécificités sur le plan cognitif et métacognitif. Et puis après, on en a déjà un peu parlé, mais il y a la confiance en soi, il y a la motivation, il y a le fait, il y a tous ces éléments-là de base affective. Et si en effet tout ça match bien, alors là, oui, vous avez des parcours qui peuvent être exceptionnels, bien évidemment.
Alors, merci beaucoup pour ces précisions. Et dans tous les cas, oui, si un enfant présente des difficultés, quoi que ce soit, faut pas hésiter à se rapprocher et savoir déceler d'où vient le trouble, si c'est HPI ou autre. Et puis, très souvent, avec l'accompagnement d'un professionnel, ça se passe très bien. Autre petite idée reçue ou pas, c'est vous qui allez nous dire, les HPI ont-ils une hypersensibilité émotionnelle ?
Alors, cette question, elle est brûlante en ce moment. Hein. je ne sais pas par quel bout exactement l'aborder. Peut-être d'abord, justement, il y a une espèce de clivage dans les pensées aujourd'hui où certains courants de pensée veulent raccrocher le haut potentiel seulement au QI et aux facteurs intellectuels et dire que le haut potentiel, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a rajouté le I aujourd'hui, avant on disait haut potentiel, maintenant on dit haut potentiel intellectuel pour essayer mettre cette idée que ce n'est qu'une différence intellectuelle et que ça n'aurait aucun impact sur la personnalité, sur les émotions, sur l'univers affectif de la personne. Bon, c'est un courant de pensée aujourd'hui qui est d'actualité, sauf que c'est un courant de pensée qui, pour moi et pour d'autres cliniciens, sont compliqués, sur le plan intellectuel d'ailleurs, à penser, parce que pour l'intelligence, c'est une part intrinsèque de notre personnalité. On n'est pas, en tant qu'être humain, on n'est pas des espèces de tiroirs comme ça, où on aurait le tiroir de notre potentiel intellectuel, le tiroir de nos émotions, le tiroir de nos schémas familiaux. Et tout ça fonctionne en interaction permanente, et de fait, cette intelligence, cette puissance de pensée qui va plus vite, qui traite plus d'éléments, a forcément, de manière évidente en fait, une conséquence sur la manière de ressentir les choses, de ressentir le monde, de se ressentir, de percevoir en effet les sensations, mais aussi les émotions. Voilà, donc ça, c'est pour poser le cadre un petit peu de sur quel courant on se situe. Après, au niveau de l'hypersensibilité, on confond souvent l'hypersensibilité plus sensorielle, perceptive, et l'hypersensibilité plus émotionnelle. L'hypersensibilité perceptive, sensorielle, c'est justement être très sensible aux odeurs, aux bruits, d'être un peu bombardé comme ça tout le temps des sensations que nous permet de capter nos cinq sens. D'accord? Donc ça, sur ça, on est à peu près d'accord sur le fait que cette manière de fonctionner chez le HPI crée une hypersensibilité perceptive, on est bon. Voilà. Ce qui est plus problématique, c'est l'hypersensibilité émotionnelle. Voilà. Et moi, je suis plus dans un courant de pensée qui disent que l'émotion, en fait, c'est un autre format de stimuli, mais c'est quand même un stimuli. Et donc, du coup, au même titre, les personnes HPI vont être bombardées aussi d'émotions qui vont se conjuguer de manière plus vite, plus intense, plus rapide, et que de la même manière qu'ils traitent les informations cognitives, perceptives, eh bien, ils vont avoir affaire à traiter ces informations plus émotionnelles. Donc, du coup, oui, il y a une forme d'hypersensibilité émotionnelle qui est une caractéristique un peu intrinsèque de ce mode de fonctionnement-là.
C'est plus dans la régulation des émotions, si j'ai bien compris.
Alors, voilà. Voilà.
Non.
Voilà, mais si. Mais oui. Vous avez raison, parce que c'est une confusion qu'on a après, l'hypersensibilité émotionnelle et le dysfonctionnement des régulations, de la régulation émotionnelle. Et on confond les deux. Et en effet, il y a toute une masse de population, enfin, on peut rencontrer plein de gens qui ont des difficultés à réguler leurs émotions et qui, du coup, vont se dire hypersensibles sur le plan émotionnel, alors qu'en fait, c'est au niveau de la régulation émotionnelle que c'est compliqué. D'accord. La régulation émotionnelle, c'est pas inné. En fait, ça s'apprend. C'est vraiment des structures corticales sur le plan du cerveau qui vont maturer, qui vont se développer avec le temps. Et puis, avec les gens que vous rencontrez, d'accord, ça va beaucoup dépendre des caregivers, des gens qui prennent soin de vous et qui vont vous permettre plus ou moins bien de développer ces structures de régulation émotionnelle. D'accord? Mais en effet, quand imaginons qu'on ait cette hypersensibilité émotionnelle, bien ça demande encore plus de possibilités de régulation émotionnelle. Mais on peut avoir pas du tout d'hypersensibilité émotionnelle, mais avoir de grosses difficultés de régulation émotionnelle. Et du coup, on va se sentir tout le temps débordé d'émotions. Mais ce n'est pas pour ça qu'on est hypersensible. Vous voyez le...
Oui, mais ça valait le coup de repréciser effectivement ces notions-là.
Et oui, parce que cette hypersensibilité, en fait, on va la retrouver dans beaucoup, beaucoup de tableaux. Vous voyez, on parle d'hypersensibilité chez le HPI. Mais on va parler d'hypersensibilité chez le TSA, chez les troubles autistiques, d'hypersensibilité même chez les, chez les personnes qui présentent même un handicap mental, c'est-à-dire à l'autre bout de la courbe de Gauss, hein, les personnes qui ont finalement peu de ressources intellectuelles sont aussi hypersensibles parce qu'ils sont bombardés d'émotions, mais ils ne savent pas bien quoi en faire, voilà, les réguler, les élaborer. On parle d'hypersensibilité dans des tableaux cliniques comme les bipolaires, comme les borderline. Enfin, on va retrouver ce terme qui va être un terme synonyme, alors qu'en fait, il est complètement différent selon le tableau dans lequel on se situe.
Merci beaucoup pour ces précisions. La question suivante, c'était chaque personne est différente dans, en règle générale, et HPI n'est pas une maladie, on l'a dit. Je ne sais pas si on l'a dit, mais en tout cas, on le dit.
On le dit.
Alors, comme ce n'est pas une maladie, quand faut-il consulter, qu'on soit enfant ou adulte?
Oui. Alors, on va consulter évidemment quand ça ne va pas. Ça, c'est une règle, on va dire, que ce soit HPI ou pas, à partir du moment où on se questionne, à partir du moment où on se sent pas à sa place, où on a des difficultés particulières. Enfin, aujourd'hui, je pense que la psychologie est tant mieux, c'est démocratisé d'une manière importante et c'est plus facile de faire appel à un psychologue ou un neuropsychologue pour pouvoir répondre à ces questions et aller mieux. Maintenant, voilà, il y a beaucoup de personnes qui disent « ça va bien, mais j'aimerais bien savoir ». Bon, ben là aussi, il y a plusieurs groupes là qui pensent que le bilan psychologique, c'est réservé quand ça ne va pas et que sinon, ça ne sert à rien de faire un bilan psychologique. Et oui, pourquoi pas, c'est vrai.
Si on le vit très bien, pourquoi pas?
Pourquoi pas, ça, en fait. Vivre très bien toute sa vie sans savoir qu'on est HPI et tout va bien. Voilà. Maintenant, après, on peut penser le bilan psychologique comme une occasion particulière de se rencontrer quand il est bien fait, hein, le bilan psychologique, hein, il n'est pas juste une espèce de
CM.
Être des cadres et des chiffres, tout ça, mais qu'il est psychologique, donc il va permettre d'avoir accès à une forme de carte de territoire de soi-même, mieux comprendre comment les choses s'impactent les unes aux autres, faire le point sur ce qui relève de mon passé, de mon histoire, qu'est-ce qui relève de mes potentialités, qu'est-ce qui relève de ma personnalité, qu'est-ce qui relève du plan intellectuel. Et ça, je trouve que c'est vraiment une occasion unique, le bilan psychologique, de pouvoir mettre en mots, mettre du sens sur qui on est. Ça a un effet vraiment thérapeutique quand il est bien fait, le bilan psychologique. C'est pas juste quelque chose qui est diagnostique ou pour se mettre des étiquettes sur le front ou pour appartenir à une communauté ou à un groupe. Ça peut être vraiment un outil ultra thérapeutique.
Et dans le cadre de HPI, qui on va consulter? Vous me dites un psychologue. Est-ce qu'il y a d'autres spécialistes qui sont ou est-ce qu'il y a des spécialités justement dans les psychologues pour traiter ce genre de alors on dit pas maladie, mais pour traiter ce genre de troubles ou de don, parce qu'on peut voir ça comme un don finalement, mais.
Oui, c'est un profil, on va dire, c'est un tableau, pour. On parle d'identification, on ne parle pas de diagnostic. De toute façon, c'est le psy ou le neuropsy qu'il faut aller dans tous les cas, puisque sans bilan psychologique, finalement, vous ne pouvez pas savoir. Hein. Encore une fois, même si vous cochez plein de signes que vous disent « je suis très empathique, je suis sensible à l'injustice, j'ai une lucidité sur le monde, je suis très intuitif, bim, bam, boum, je remplis toutes les cases, c'est bon, je suis HPI », encore une fois, ceci ne constitue que le haut de l'iceberg et il n'y a que vraiment le bilan psychologique qui peut corroborer ces éléments et les analyser dans leur globalité. Donc, la première étape, c'est d'aller consulter un psy ou un neuropsy. Après, c'est vrai qu'il existe énormément de professionnels, de coachs, de praticiens en tout genre aujourd'hui qui vont se dire spécialisés dans ce type de population et qu'il faut être très vigilant à qui vous allez consulter. Ne pas jamais faire des tests en ligne, d'accord?
Ce que j'allais vous dire, on oublie tous les tests en ligne. Et notamment, je crois qu'il y a effectivement aussi beaucoup d'arnaques autour de ça actuellement sur Internet, hein. Des faux tests payants.
Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, on oublie tout ça parce que ça n'a aucune validité. Aujourd'hui, il y a vraiment le whisk pour les enfants et la vice pour les adultes qui sont les supports psychométriques valides pour pouvoir faire des bilans psychologiques. Et donc, moi, je vous encourage dans une première étape vraiment d'aller voir un psy, un neuropsy et de faire un bilan valide avant de vous identifier trop vite et trop fort à cette population, au risque de réduire beaucoup votre compréhension de votre identité, de qui vous êtes. Et après, c'est tout un travail qui peut être laborieux où il faut se désidentifier pour pouvoir retrouver vraiment sa liberté, savoir vraiment qui on est. Donc, y a un chemin prudent à faire autour de ça.
Oui, faire des tests donc sérieux. Et puis aussi, le but, c'est effectivement, si on est détecté au potentiel, c'est d'avoir un accompagnement par un professionnel qui aidera à comprendre le mode de fonctionnement et justement qui aidera un petit peu à optimiser le haut potentiel. Donc, autant le faire sérieusement et aller voir un spécialiste qui pourra assurer ce suivi, en fait.
Voilà, toujours dans la nuance. C'est-à-dire, le professionnel que vous allez voir, il faut faire attention qu'il tienne compte de vos spécificités, qui mettent pas, qui balayent pas, ah, vous êtes HPI, mais bon, ça, on s'en fiche, c'est pas ça qui est important. Si c'est important, parce que ça fait partie de votre décor intérieur, de votre théâtre intérieur, et donc c'est des éléments à tenir compte. Mais il faut faire attention à l'autre côté des professionnels qui vont tout interpréter à travers ce filtre-là. Vous voyez, c'est comme une paire de lunettes. Ah, vous êtes anxieux, c'est parce que vous êtes HPI. HPI. Ah, vous avez des problèmes de couple, c'est parce que vous êtes HPI. Ah, vous avez pas d'amis, c'est parce que vous êtes HPI. Donc, il faut faire attention à trouver des professionnels qui soient dans la nuance, c'est-à-dire qui tiennent compte de ces spécificités-là, mais qui ont aussi une perspective intégrative de votre complexité et qui tiennent compte aussi de votre parcours, de vos schémas de pensée, de vos systèmes de croyances, de plein d'autres éléments pour vraiment vous accompagner dans votre singularité. Ça, c'est vraiment important.
Merci beaucoup. C'était très clair et passionnant. Je trouve que c'est un sujet vraiment passionnant dans lequel je pense qu'on a encore beaucoup de choses à dire. Merci d'avoir partagé avec nous cette expertise. Et si vous-même, donc je le rappelle, hein, ou votre enfant présentait des signes de haut potentiel intellectuel et que vous posez des questions ou que cela pose quelques difficultés dans le quotidien ou encore l'apprentissage, il ne faut pas hésiter à se rapprocher d'un professionnel. Un professionnel, comme vous l'avez dit très justement, saura vous aider à mieux comprendre, à composer avec le fonctionnement qui découle du haut potentiel. Et un professionnel, surtout, saura vous apporter les clés pour mettre à profit cette particularité, peut-être ce don, en tous les cas, ce haut potentiel. Il ne faut donc pas hésiter et demander les conseils d'un professionnel. Audrey Platania, vous proposez vous-même des consultations et vous formez d'ailleurs les spécialistes pour accueillir les questions liées au haut potentiel intellectuel. Comment vous contactez, vous ou l'un de vos centres Cogitose?
Alors, oui, Cogitose, c'est toute une équipe de psychologues. Il y a plusieurs centres en France et à l'étranger. Vous pouvez aller directement sur le site internet, en fait, de Cogitose, hein, où vous allez avoir retrouvé toutes les informations, que ce soit les consultations dans les différents centres, les formations qu'on donne aux professionnels. Et il y a également des cours pour tous, en fait, grand public que vous allez retrouver sur ce site si vous souhaitez aller plus loin. Voilà, vous pouvez aussi.
Ah, il y a aussi des cours grand public, donc si on souhaite aussi approfondir ce sujet-là, bah, c'est très.
Tout à fait. Voilà.
Très intéressant.
Vous aurez tous ces éléments sur le site. Voilà.
Très bien, bah, merci beaucoup. Et évidemment, je vous réinscris toutes les informations dans le descriptif de la vidéo pour rejoindre et suivre le travail d'Audrey Platania. Je crois aussi savoir que vous avez rédigé de temps en temps des petits articles justement sur tous les sujets liés à la psychologie. Donc, ce sont des sujets passionnants dans tous les cas. On espère peut-être vous retrouver très vite dans un prochain sujet, voilà. Peut-être pour approfondir le sujet HPI ou parler d'autres sujets passionnants comme celui-ci. Un grand merci.
Merci beaucoup, Émilie. Merci à tous.
Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.
Au revoir.